Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Les Guinéens se sont rendus aux urnes dans le calme dimanche pour choisir leur prochain président après des mois de contestation meurtrière contre un éventuel troisième mandat du président sortant Alpha Condé. Nous y reviendrons dans quelques instants avec notre correspondant Zakaria Camara. En Côte d'Ivoire, où la présidentielle est prévue le 31 octobre, des violences intercommunautaires ont fait, selon l'AFP, au moins 2 morts depuis vendredi à Bongouanou, situé à 200 km au nord d'Abidjan et fief du candidat Pascal Afinguesson. Il s'agit d'un commerçant de l'ethnie locale Agni, considéré comme favorable à l'opposition, et d'une personne d'ethnie Djoula, originaire du nord du pays et réputé proche du pouvoir. Par ailleurs, une mission de la CEDEAO est arrivée dimanche à Abidjan, la deuxième en une semaine en Côte d'Ivoire. Nous reviendrons sur l'élection ivoirienne dans quelques instants avec Nathalie Barge et notre correspondant Siri Kibaro en seconde partie de cette édition. L'homme d'affaires mauritanien Mustapha Ould Limam Chafi, un opposant à l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz, connu pour son rôle dans la libération d'otages occidentaux au Sahel, est rentré dimanche d'un exil d'une dizaine d'années, selon l'AFP. La justice mauritanienne avait annulé il y a tout juste un an les poursuites judiciaires visant 3 opposants mauritaniens, dont Ould Chafi. Apparemment un signal de la volonté d'apaisement et de normalisation du climat politique après l'élection mi-2019 du président Mohamed Ould Cher El Ghazouani. En Afrique du Sud, le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, a annoncé dimanche avoir été testé positif au COVID-19, 2 jours après que ce pays a franchi le cap des 700 000 cas recensés, dont 18 370 décès. Il est le 5e membre du gouvernement sud-africain à avoir été infecté. L'Afrique du Sud compte 43% des cas de COVID-19 sur le continent africain. Les strictes mesures de confinement et les restrictions de voyage mises en place ont été assouplies, mais Zweli Mkhize a demandé une nouvelle fois dimanche aux Sud-Africains de rester vigilants car le risque existe de voir apparaître une deuxième vague. L'Europe, confrontée à une puissante deuxième vague, a dépassé dimanche les 250 000 morts du COVID-19, pendant qu'Israël et la ville australienne de Melbourne amorçaient un déconfinement progressif après plusieurs semaines de restrictions draconiennes. Et puis, le Palestinien Saeb Erekat, secrétaire général de l'OLP infecté par le coronavirus, a été hospitalisé dimanche dans un établissement israélien qui a fait savoir qu'il se trouvait dans un état grave mais stable. Plus de 1,11 million de décès pour plus de 39,7 millions de cas ont été officiellement recensés dans le monde. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé, suivi par le Brésil et l'Inde. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dimanche partout en France pour rendre hommage au professeur décapité vendredi pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mohammed. Un attentat qui a conduit le gouvernement à annoncer des mesures contre la propagande en ligne et pour la sécurité des écoles. L'Iran a déclaré dimanche qu'un embargo de l'ONU sur ses armes a désormais expiré au terme de l'accord international sur le nucléaire iranien et la résolution 2231 du Conseil de sécurité. Washington affirme cependant que toute vente d'armes à Téhéran entraînerait des sanctions. En Bolivie, Luis Arce, le candidat de la gauche et dauphin de l'ancien président Evo Morales, a remporté dimanche la présidentielle dès le premier tour avec 52,4% des voix face au centriste Carlos Mesa, selon un sondage de sortie des urnes diffusé par la chaîne privée.
La suite de nos informations. Présidentielle guinéenne, les opérations de vote se sont déroulées sans incident majeur. Plus de 5 millions de Guinéens étaient appelés à choisir entre 12 candidats, dont le président sortant Alpha Condé. Le point avec Zakaria Camara, notre correspondant en Guinée.
Les Guinéens ont voté dans le calme des observateurs lundi, au terme d'une journée qui aura enregistré une grande mobilisation devant plusieurs bureaux de vote à Conakry. Après avoir glissé son bulletin de vote dans l'urne, le président sortant Alpha Condé a fait le souhait d'une élection libre, démocratique et transparente. Son principal opposant, lui, a appelé ses militants à la retenue. Il a ensuite fait une mise en garde. Ils nous trouveront sur leur chemin s'ils essayent de frauder, menace Sélou d'Alain Diallo au cours d'une conférence de presse qu'il a animée après avoir voté. Quelques incidents ont été signalés dans la capitale. Un pick-up de l'unité spéciale de sécurisation des élections a été attaqué à Antamarché. Selon le ministère guinéen de la Sécurité, il s'agissait des loubards dont l'un d'entre eux a été interpellé. La Commission électorale nationale indépendante a 72 heures pour donner des résultats provisoires à compter de la date de réception du dernier procès-verbal des commissions administratives de centralisation des votes. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Nous retrouverons Zakaria Camara en seconde partie de cette édition. Une mission de la CEDEAO est arrivée dimanche à Abidjan, la deuxième en une semaine en Côte d'Ivoire, où la campagne électorale pour la présidentielle du 31 octobre se déroule dans un climat tendu. Nathalie Barche.
Aucune crise ne peut être résolue sans le dialogue, a déclaré Shirley Botchwe, ministre ghanéenne des Affaires étrangères qui conduit la délégation, à l'issue d'une rencontre avec deux candidats de l'opposition. L'ancien président Henri Konan Bédié et l'ex-premier ministre Pascal Affine-Guessan. La délégation de la CEDEAO doit également rencontrer le président Alassane Ouattara, candidat à un troisième mandat, et le premier ministre Ahmed Bakayoko. Des violences intercommunautaires opposant partisans et adversaires de M. Ouattara ont fait au moins 2 morts depuis vendredi à Bongouanou, fief de Pascal Affine-Guessan. De nombreux commerces et restaurants ont été pillés et brûlés et plusieurs voitures incendiées. La résidence de M. Affine-Guessan a également été incendiée. L'opposition demande une réforme de la commission électorale et du conseil constitutionnel qu'elle accuse d'avoir validé la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat controversé et rejeté 40 candidatures dont celle de Guillaume Soro et Laurent Gbagbo.
Au Burkina Faso, le gouverneur de la région du Sahel, le colonel Salfo Kabore, a annoncé dimanche qu'un directeur d'école et un agriculteur ont été tués jeudi lors d'une attaque dans la province de Loudalan, dans le nord du pays. Michel Joseph.
Le bilan de l'attaque de jeudi sur l'axe Salmossi-Marcoyé est de 2 morts. Ousseini Saïdou, directeur de l'école de Dambam, et Haruna Ali, cultivateur à Marcoyé, a indiqué le colonel Kabore, précisant qu'une personne a également été blessée. La veille, une vingtaine de personnes ont été tuées au cours d'attaques dans 3 localités de la province de Sénou et dans la nuit du 4 au 5 octobre, 25 civils, majoritairement des déplacés internes, fuyant les violences djihadistes, ont été tués dans le centre nord du pays selon le HCR. Le nord du Burkina Faso est la zone la plus touchée par les attaques djihadistes qui ont fait plus de 1200 morts et plus d'un million de déplacés. Ces violences, mêlées à des conflits intercommunautaires, ont fait 4000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019, selon l'ONU.
Israël et Bahreïn ont scellé dimanche un accord établissant des relations diplomatiques entre les deux pays, un mois après la signature à la Maison-Blanche d'un accord normalisant leurs liens. À Manama, les deux pays ont convenu de coopérer dans les domaines de l'économie, de l'aviation, de la finance, de l'agriculture et des communications, Nathalie Barge.
L'accord de normalisation représente une avancée historique importante pour réaliser la sécurité, la paix et la prospérité, a déclaré le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdelatif Al-Zayania. Ces relations vont bénéficier aux deux parties dans divers domaines, a assuré à ses côtés le conseiller à la sécurité nationale israélienne, Meir Ben Shabbat. Avant son départ de Tel Aviv, M. Ben Shabbat a déclaré que ces rencontres avaient pour objectif de traduire par des programmes concrets les accords signés à la Maison-Blanche. Venu à Manama avec la délégation israélienne, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a mis l'accent sur l'opportunité que représentent ces accords pour les économies des pays concernés, notamment dans le domaine des technologies. L'ouverture d'une ambassade d'Israël est prévue dans les mois à venir, a déclaré un conseiller de Donald Trump, Avi Berkowitz, également à Manama pour la signature. Le Bahreïn est devenu le quatrième pays arabe à normaliser ses relations avec Israël.
Minute écho, Nanit Talani.
Le Sénégal veut installer une usine de décorticage et de trituration de graines d'arachide dans la région de Kolda. Des discussions sont en cours avec les autorités de l'arrondissement de Djoulakolon pour trouver un site, selon Modou Fada, directeur de la Société nationale de commercialisation des oléagineux. Par ailleurs, les autorités négocient avec des partenaires pour acquérir des machines pouvant permettre le décorticage. Le Sénégal ambitionne de produire 1,4 million de tonnes d'arachide en 2020-2021. Les cours du cacao ont souffert la semaine passée dans un marché toujours préoccupé par le niveau de la demande, alors que la récolte s'annonce favorable dans les principaux pays producteurs d'Afrique de l'Ouest, dont le Ghana et la Côte d'Ivoire. À Londres, la tonne de cacao pour livraison en mars 2021 valait 1 640 livres sterling contre 1 675 livres sterling le vendredi précédent. Pour terminer, les cours du cuivre sont restés stables la semaine dernière. À Londres, la tonne de cuivre pour livraison dans 3 mois s'échangeait à 6 747,50 $ vendredi contre 6 793 $ le vendredi précédent. L'or, par contre, a connu une nouvelle semaine agitée. À Londres, l'once d'or valait 1 899,60 $ contre 1 930,40 $ la semaine précédente.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Après plusieurs mois de suspension, les interclubs de la CAF débutés en août 2019 ont repris leurs droits.
Tout à fait. Et ce lundi démarre le Final Four de la Coupe de la Confédération avec un duel 100% marocain entre la Renaissance de Berkane, finaliste l'année dernière, et Hassania Dagadi à Casablanca. Demain à Rabat, les Guinéens de Oroya vont en découdre avec les Égyptiens de Pyramide. La finale aura lieu le 25 octobre prochain au stade de Rabat.
En Ligue des Champions, les deux matchs des demi-finales aller ont déjà été joués samedi et dimanche.
Oui, avec en prime une grosse performance des clubs égyptiens. Al Ahly a pris une très sérieuse option pour la finale en s'imposant 2-0 sur la pelouse du Wydad de Casablanca. Le lendemain, c'est au tour de Zamalek de réaliser le même exploit en s'imposant 1-0 face au récent champion du Maroc, le Raja de Casablanca. On file droit vers une finale 100% égyptienne. Les deux clubs marocains ont donc une semaine pour refaire leur retard.
Reprise également de la Ligue 1 de football en Guinée, Élisée.
Exactement, Idrissa. Commencé le mercredi dernier, cette Ligue 1 Salam s'est poursuivie hier à Conakry. Le premier match a vu le centre industriel de Kamsa l'emporter 1-0 devant l'Académie Soa. Et puis, la deuxième affiche a permis à Wakria de Boké de battre Satellis FC de Conakry sur la marque de 2-1. A noter que la veille, Louba a eu raison de Fellow Star score 1-0.
Pendant ce temps, à RDC, le Classico n'a pas dégagé de vainqueur.
Le match le plus attendu de la saison entre les deux représentants congolais en Ligue des Champions, ASV Club et TP Mazembe, s'est soldé sur un décevant 0-0. Un match équilibré, comme l'a reconnu Florent Ibengué, entraîneur des Dauphins Noirs de Kinshasa.
Pour avoir la victoire, mais c'est vrai qu'il y a un adversaire qui est en face. Si on a mis cette configuration en face, c'était évidemment par rapport à ce qu'on avait aussi en face de nous. Donc voilà, le match était très équilibré. Je pense que le résultat nul est plutôt logique.
À sa suite, le Serbe Drazen Zvetkovic des Corbeaux de Lubumbashi donne rendez-vous aux supporters pour les prochaines journées.
n'a pas eu ce brin de réussite que l'on aurait mérité sur la première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, les deux équipes se sont contrôlées, se sont neutralisées, donc ça reste un match nul équitable.
Des propos recueillis par Valdo Simbo Nyamba Nyamba, notre correspondant à Kinshasa. Au classement, Feyenoord passe deuxième avec 7 points. Derrière, Manema Union, 10 points, est tenu en échec à domicile par le Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi, score 1 but partout.
Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Guinéens ont donc voté ce dimanche dans le calme pour élire leur prochain président. Plus de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir entre 12 candidats, dont le président sortant Alpha Condé. Nous retrouvons Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
Après avoir glissé son bulletin de vote dans l'urne, le président sortant, Alpha Condé, a souhaité que les élections se déroulent dans le calme.
Mon souhait est que l'élection soit libre, démocratique et transparente et que tout se passe dans la paix et la tranquillité. Nous allons faire en sorte de sécuriser tous les bureaux de vote. La Guinée ne peut pas se développer s'il n'y a pas la paix, la sécurité et l'unité. Donc nous appelons tous les candidats à éviter toute la violence. Si certains veulent perturber, je pense que le plan national et international
L'ancien Premier ministre et principal opposant à Alpha Condé a quant à lui appelé ses militants à la retenue. Sélou Dalein Diallo a ensuite fait une mise en garde.
Je vous souhaite vivement que le scrutin se passe dans de bonnes conditions. En tout cas, moi j'ai invité mes participants à faire preuve de retenue et de responsabilité pour que le scrutin se passe dans de bonnes conditions. Maintenant, je sais que Alpha Condé n'a pas moyen de gagner cette élection. La stratégie qu'ils sont en train, sur laquelle ils travaillent, c'est comment frauder. Et là, ils nous trouveront sur leur chemin s'ils essayent de frauder cette élection.
L'une des deux candidates à l'élection présidentielle du 18 octobre n'a pas pu voter. Makale Camara qualifie l'incident d'inexplicable.
Il paraît que je fais partie des 2 millions de personnes qui sont radiées, ce qui signifie qu'ils ont radié qui ils veulent, mais ils n'ont pas radié les bonnes personnes. Parce que quand la CEDEAO est venue, qu'elle a constaté qu'il y a des mineurs, il y a des gens sans documents qui sont dans le fichier, on leur a demandé d'enlever 2 millions. Les 2 millions ne sont pas ceux qui devraient être enlevés. Parce que je ne vois pas une personne comme moi qui se s'est faite enrôler correctement avec tous les documents à l'appui et que je me retrouve dans la liste des radiés et qu'on me dise que dans le fichier que mes pièces n'existent pas, c'est inexplicable.
De grandes mobilisations ont été remarquées devant plusieurs bureaux de vote dans la capitale. Ce citoyen qui a voté à Conakry a voulu passer un message au futur président guinéen.
Je souhaite que le futur président de la République soit un président rassembleur. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que le bon vivre est effrité. Donc, pour sauver la nation, il doit être un président qui va affirmer la démocratie, qui va affirmer la bonne gouvernance.
Quelques incidents ont été signalés dans la capitale. Un pick-up de l'unité spéciale de sécurisation des élections a été attaqué à Antamarché. Selon le ministre guinéen de la Sécurité, il s'agissait de loubards dont l'un d'entre eux a été interpellé. La Commission électorale nationale indépendante a 72 heures pour donner des résultats provisoires à compter de la date de réception du dernier procès verbal des commissions administratives de centralisation des votes. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La campagne pour la présidentielle du 31 octobre a démarré en Côte d'Ivoire. Si Alassane Ouattara, président sortant, et Kwadio Kona Bertin, candidat indépendant, ont commencé à investir le terrain, l'opposition menée par Henri Conan Bédié du PDCI et Pascal Affinguesson appelle leurs partisans au boycott du processus. Des violences ont déjà éclaté dans certaines villes du pays suite à l'appel à la désobéissance civile lancé par l'opposition. De Boaké, notre correspondant Siriki Barou.
Malgré sa candidature contestée par ses principaux adversaires, Alassane Ouattara a officiellement lancé sa campagne le vendredi dernier à Boaké. À ses partisans, il a laissé entendre que rien ne pourra empêcher la bonne tenue du scrutin à la date constitutionnelle.
Nous aurons les élections dans notre pays le samedi 31 octobre. Ceux qui ne veulent pas, qui restent à la maison.
De son côté, le candidat indépendant, Kwadio Konan-Bertin, était ce même vendredi à Divo, ville située au nord d'Abidjan, pour débuter sa campagne. Lui ne se reconnaît pas dans cette opposition qui appelle au boycott du processus électoral. L'appel à la désobéissance civile lancé par les leaders de l'opposition que sont l'ex-président Henri Konan-Bédié du PDCI et Pascal Affine-Guessant reste assez peu suivi, notamment à Boaké. Mais ce calme apparent ne durera pas longtemps, selon Kwadi Oblé Norbert, secrétaire national du FPI chargé de la région du Boaké.
Soyez-en sûrs, les manifestations seront sur tout l'étendue du territoire et la région du Bekele ne sera pas en reste. Nous appliquerons des moyens politiques et dites-vous, nous disons que nous sommes prêts pour la prison. Et ça ne nous fera pas peur. Mais nous avons arrêté des mesures et ça sera appliqué sur tout l'étendue du territoire.
Ce week-end, la tension est montée d'un cran à Bangwanou, dans le sud-est du pays, une ville qui est connue pour être la base électorale de l'opposant Pascal Affine-Guessant. Son domicile a d'ailleurs été incendié dans les violences entre militants du RHDP d'Alassane Ouattara et ceux de l'opposition. Siri Kibaro, Boaké, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Le Burkina Faso a accueilli ce week-end une famille africaine-américaine qui a décidé de s'y installer définitivement. Des tests ADN indiquent que cette famille est d'origine burkinabé et de l'ethnie Bissa dans le centre-est. Ce n'est pas la première fois que des Américains déménagent au Burkina Faso, nous dit notre correspondant Lamine Traoré.
Timothy Bignon, musicien, entouré de sa femme Yasmine Bignon, infirmière, et de leurs 5 enfants. La plupart mineurs foulent ce soir-là le tarmac de l'aéroport de Ouagadougou. Eux qui ont vécu toute leur vie dans l'état du Missouri se retrouvent pour la première fois au Burkina, contents d'être là parce qu'ils savent qu'ici se trouve leur origine. Timothy Bignon.
Vous ne pouvez pas imaginer la joie qui m'anime actuellement d'être chez moi. Nous sommes, ma famille et moi, nous sommes très, très, très contents d'être ici. Parce que nous appartenons au Burkina Faso. Et nous sommes fiers, et surtout que dès mon arrivée à l'aéroport, l'accueil, tous ceux qui ont pris les photos, ça me motive. J'ai décidé de faire mon ADN pour voir de quel pays. Je suis. Effectivement, le test est tombé, le virus est tombé comme quoi. Je suis burkinabé et j'ai décidé de revenir dans mon pays.
Ce déménagement est une surprise pour de nombreux Africains, mais pour Timothy Bignon, ça ne devrait pas l'être.
Nous avons une autre image des États-Unis. C'est pour dire que tout ce qui brille n'est pas l'or. C'est vrai, beaucoup d'Africains tentent d'aller au Burkina, mais ce n'est pas facile. Et il n'y a rien de tel que chez soi. On réussit mieux, on est fiers, on est en paix chez soi.
Ces arrivées d'Afro-Américains au Burkina sont diversement appréciées par les Burkinabés.
C'est leur choix, comme tout le monde est libre de faire son choix, de demander à nos autorités de redoubler plus de vigilance, parce qu'on ne sait jamais. Nous qui rêvons de partir là-bas, un coup on apprend qu'il y a des Américains qui veulent venir s'installer au pays, soit disant qu'ils sont d'origine burkinabé. C'est quand même un peu bizarre pour quelqu'un qui est né dans ce pays.
C'est un retour au bercail. De ce fait, je pense que qu'ils investissent au Burkina Faso, c'est normal parce que c'est leur pays avant tout. Le terrorisme n'est pas l'apanage du Burkina Faso seulement. Tous les pays du monde, même aux États-Unis, il y a le terrorisme. Donc je pense que ça ne doit pas quand même être un justificatif pour les empêcher de venir au Burkina Faso.
L'arrivée de ces Afro-Américains au Burkina est facilitée par la fondation Bukari Ouédraogo qui a déjà fait installer plusieurs familles américaines. Fatou Savadogo est la coordonnatrice de la dite fondation.
C'est dans l'optique de permettre aux Afro-Américains en fait, de revenir vers l'Afrique, voilà, connaître leurs origines et aussi également pouvoir contribuer au développement du continent, aussi bien de l'Afrique que du Burkina Faso.
Timothy Bignon, après quelques jours à Ouagadougou, compte s'installer à Zabré, dans le Boulgou, là où se trouvent ses véritables origines, son ethnie, les Bissa. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Chaque année est publié un indice qui renseigne sur la perception du bonheur dans le monde. L'indice de bonheur classe les pays et généralement ceux d'Afrique se retrouvent au bas de l'échelle. Qu'en est-il au Togo? Eh bien, reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Être heureux pour un Américain ou pour un Français n'a pas la même connotation que pour un Togolais. L'indice du bonheur 2020 classe les Togolais dans la catégorie des personnes les moins heureuses de la planète. Ces derniers ont des indicateurs propres à eux qui leur permettent de définir leur bonheur. Comme la Yenke est psychologue clinicien, il officie à l'hôpital psychiatrique de Zébévi.
Chez les Togolais, la première des choses, c'est avoir un boulot. Parce que quand vous avez un boulot, vous avez de quoi satisfaire vos besoins primaires. Et ensuite, aller vers la création d'une famille, assurer sa progéniture. Quand il a déjà un boulot, quand il a une famille, il va chercher à construire sa maison. Et donc, les trois éléments-là contribuent à l'appréciation du bonheur chez les Togolais.
Ces facteurs cités par le psychologue ne sont pas figés, soutient Freeman Latte Lawson, pasteur de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Il insiste sur le caractère relatif du bonheur.
Être fortuné, avoir sa maison, avoir une belle voiture, être à la mode, ne définit pas forcément le bonheur dans son ensemble. Le bonheur, c'est relatif. Être heureux, comme nous le disons, c'est avoir cette paix du Christ, cette paix intérieure. Le bonheur, c'est la liberté, c'est la paix, c'est la joie.
Le bonheur est un état d'esprit qui se limite dans le temps. Il est aussi subjectif, car dépendant de chaque individu. Rodolphe Anoumou, étudiant.
Je suis heureux, j'ai du bonheur en moi lorsque j'arrive à faire du bien à l'autre. En ce sens, je suis heureux. Il m'arrive d'être heureux, mais pas toujours à 100%. Parce que parfois, le but visé n'est pas totalement atteint. Le bonheur est un état d'esprit qui découle d'une satisfaction, d'un bien qu'on a fait à autrui et qui nous donne une joie qui est pérenne, durable et qui a une stabilité intérieure.
Quelle appréciation les Togolais font de leur état de bonheur?
Je ne dirais pas que les Togolais sont heureux dans la mesure où nous avons l'impression que malgré les efforts que l'on fait pour satisfaire nos désirs, il y a quelque chose qui nous bloque, il n'y a pas cette stabilité-là. Dans ce sens, dire que les Togolais sont heureux, je dirais non.
Dans l'absolu, on ne peut pas dire que les Togolais sont heureux. De façon générale, il fait bon vivre, d'autant plus qu'il n'y a pas la guerre. On vit, on peut manger. Si tout le monde même ne trouve pas pour le moment à manger, comme on dit, les trois repas, espérons avec l'effort, on atteindra chacun son bonheur.
L'indice du bonheur 2020 classe le Togo à la 135e position mondiale sur 153 pays. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest se niche à la 30e place continentale derrière les Comores et devant l'Éthiopie. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sibulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.